Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour ce moment avec Étienne Klein, qui est présente aujourd'hui et aussi dans le cadre de Lire en poche à Gradignan. Et il y aura justement demain matin à l'Université Bordeaux 1, une conférence également avec d'autres enseignants-chercheurs. Si j'avais dû donner un titre à ce moment que nous allons passer ensemble... Donc si j'avais dû donner un titre à ce moment que nous allons passer ensemble, je l'aurais appelé « Des mots et mots des physiciens ». Ce qui tombe bien, puisque nous sommes dans une librairie et que nous sommes dans le cadre de Lire en poche, les mots M-O-T-S des physiciens, car si vous entrez dans cet ouvrage, vous allez vite découvrir que les physiciens ont un langage bien à eux, un jargon particulier, ce qui est un peu le cas de tous les scientifiques. Dans l'infiniment grand, on les suit à peu près, on arrive aux planètes, les étoiles, les galaxies. Lorsqu'ils nous entraînent dans l'infiniment petit, ça se complique un petit peu. On parle de l'atome, du noyau, du neutron, du proton, du positron, du muon, du gluon, du neutrino, l'antineutrino, du pion aussi. Celui-là, vous le connaissez peut-être, mais ce n'est pas tout à fait la même définition en physique. Et puis, il y a les mots qu'on connaît, mais qui ne sont pas les mêmes chez les physiciens. Si je vous demande de vider cette pièce, on va sortir, on va enlever les tables, les chaises. Mais le vide n'est pas le vide, nous dit Étienne Klein. Le vide quantique, c'est autre chose, il y a quand même quelque chose. Si on parle du Big Bang, on verra, on en traitera peut-être cette question. Le terme de Big Bang même est aussi un sujet intéressant pour les physiciens, qui ne veut pas dire exactement ce qu'ils auraient voulu dire au départ. Et que dire de la matière noire, également? Vous nous dites, Étienne Klein, certes, cette matière est noire au sens où elle demeure mystérieuse, où son statut est obscur, mais elle n'est nullement noire au sens physique du terme. Elle serait même transparente, ajoutez-vous. C'est la même chose que pour l'énergie noire qu'il faudrait repeindre en rose, d'après un épigraphe de Jacques Reda. Vous aimez les mots, Étienne Klein, vous aimez ceux des autres. Lorsqu'on regarde le nombre d'épigraphes qui ponctuent ce livre, on va de Samuel Beckett à Sartre, Nietzsche, Paul Valéry, en passant par Bob Dylan et même Fernand Reynaud à un moment. Vous aimez les mots, vous nous faites d'ailleurs un discours sur l'origine de l'univers, et vous aimez jouer avec les mots, ce qui nous donne des titres de paragraphes assez savoureux, comme des équations qui vont dans le mur avant de l'atteindre, comment escalader le mur de Planck, ou la cosmologie encore du noir à broyer. Vous aimez les mots, jouer sur les mots à tel point qu'ils vous sont peut-être montés à la tête et qu'ils sont ressortis dans n'importe quel ordre, ce qui donne ce petit bijou d'écriture créative sur les anagrammes, on en parlera également. Il y a donc les mots, M-O-T-S, et les mots des physiciens. Les mots, M-A-U-X, des physiciens, ce sera le cas d'Ettore Majorana, un physicien italien disparu dans les années 30 assez mystérieusement, de la trempe d'un Galilée ou d'un Newton, vous nous dites. Et ce sont donc ces mots, tous ces mots, de physiciens que nous allons évoquer avec vous ce soir. Merci d'être avec nous, Étienne Klein.
Merci à vous.
Alors, juste pour présenter, si vous ne le connaissez pas, Étienne Klein, on va faire un CV express. Donc, vous êtes ancien élève de l'École centrale de Paris, où vous enseignez également, à la fois physique et la philosophie des sciences. Vous avez un DEA de physique théorique, un doctorat en philosophie des sciences, donc, et vous avez notamment travaillé à la conception de l'accélérateur de particules au CERN, le LHC. Actuellement, vous êtes directeur de recherche au CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous dirigez le laboratoire des recherches sur les sciences de la matière, l'ARCIM, sur le plateau de Saclay, au sud de Paris. Depuis plusieurs années, vous publiez régulièrement des livres. Conversation avec le Sphinx, les paradoxes en physique, les tactiques de Cronos, le facteur temps ne sonne jamais deux fois, et même le rugby quantique, une discussion avec...
C'est pas tout seul. Hein.
Non, avec justement un rugbyman aussi, Johnny Wilkinson, qui montre votre amour aussi pour le sport, le rugby et l'escalade, qui apparaît également dans vos livres. Vous participez à de nombreuses conférences, je l'ai dit, vous serez demain sur l'Université Bordeaux 1, vous avez participé également au colloque Savoir Ignorer l'année dernière à Bordeaux, et on vous entend tous les jeudis matin, sauf demain matin, sur France Culture vers 7h15. Vous nous avez parlé la semaine dernière du modèle standard de la physique des particules. Vous avez évoqué le prix Nobel. On en parlera peut-être sur le discours sur l'origine de l'univers. Ma première question, ce serait justement sur l'écriture. Vous expliquez, dans Cherchant Majorana, que L'écriture, c'est une façon aussi de pouvoir sortir quelque chose et ne plus être, par exemple, par rapport à ce que vous disiez sur le temps. Vous dites que l'écriture, c'est le seul moyen que l'homme ait jamais trouvé pour se débarrasser de ses pensées obsédantes. Et je voulais savoir, justement, comment vous êtes arrivé à la physique, à la philosophie des sciences, et à vouloir ou à avoir le besoin d'écrire ces livres.
Bien, bonsoir à tous, merci pour cette présentation. Vous avez beaucoup travaillé. Moi, j'aurais jamais été capable de résumer tout ça aussi brillamment. Le chemin qui mène à l'écriture, c'est vraiment très long. Donc, si je le raconte, vous allez vous ennuyer. En fait, j'ai commencé par les discours de mariage. Bon, et puis ensuite, à l'occasion d'un problème de santé qu'on m'a annoncé comme étant beaucoup plus grave que ce qu'il s'est révélé être par la suite, j'ai décidé, dans le peu de temps à vivre qu'on m'avait accordé, c'est-à-dire 3 mois, d'écrire le livre que je pensais écrire à ma retraite.
D'accord.
J'avais une idée de bouquin, parce que je m'en rendais compte en enseignant à Centrale que les élèves étaient plus assidus et plus intéressés par les cours lorsque je commençais par présenter un paradoxe lié à la physique, et qu'ensuite je faisais un peu durer le suspense pour que la solution du paradoxe soit donnée à la fin, plutôt que de présenter les formalismes de la physique par les équations dont on résout les cas intéressants, etc. Ça m'avait paru une recette pédagogique qui mériterait d'être creusée à ma retraite. Bon, et puis en fait je l'ai creusée plus vite que prévu, et c'est ça qui m'a mis dans l'écriture alors que j'avais l'intention de le faire vraiment tout à la fin, comme c'était le cas à l'époque, c'était les années 90, et au CEA où je travaillais déjà, il était exclu qu'un jeune physicien écrive des bouquins. C'était quelque chose d'inimaginable. Ne pouvaient écrire que les vieux, à la condition expresse qu'ils soient à l'Académie des sciences. Bon, donc là, il y a eu un bug existentiel qui fait que, alors que le livre est paru, alors que j'étais vivant, alors que je pensais ne pas l'être, j'ai dû affronter le fait d'avoir écrit. Bon. Et pour l'assumer pleinement, il n'y a qu'à faire un autre livre, etc. Bon. Mais plus sérieusement, je pense qu'il y a une partie du travail de physicien la partie la plus importante, quand on fait de la recherche fondamentale, c'est de trouver quel est le lien qu'il y a entre nos théories physiques et la réalité. Bon, vous avez entendu parler du boson de Higgs qui a été découvert il y a un an et demi même. J'espère qu'il y aura le prix Nobel la semaine prochaine. Mais
vous les citeriez déjà l'année dernière.
Il y a eu énormément de travail accompli par des milliers de physiciens, d'ingénieurs, de techniciens pendant 40 ans pour voir si cette particule prédite par les théoriciens existait ou pas. C'est quand même un effort incroyable. Et c'est évidemment un travail tellement lourd que quand on l'accomplit, on n'a pas trop le temps de s'intéresser à d'autres questions qui font elles aussi partie du métier de physicien. Et parmi elles, il me semble qu'il y en a une qui est trop délaissée, qui est la question de savoir ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Bon, les équations ne parlent pas, évidemment, donc c'est un exercice impossible. Mais vous savez bien que c'est pas parce que quelque chose est impossible qu'il faut y renoncer. C'est pas parce que c'est impossible que c'est interdit. Bon. Et donc il faut y aller, et il faut essayer de se demander ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler, en commençant par les plus simples, les équations de Newton, celles de la relativité, celles de la théorie des champs. À propos de vieilles questions abondamment traitées par les philosophes, comme le temps, le vide, la matière, c'est des mots qui sont invariables. Le mot vide, le mot temps, même si ce ne sont pas des mots universels, c'est-à-dire des mots qu'on trouve dans toutes les langues, dans nos langues, ils existent depuis des millénaires. Simplement, ce qu'on met derrière ces mots n'a pas cessé d'évoluer, alors que notre usage des mots, lui, est victime d'une certaine fixité. Et de temps en temps, il faut remettre les pendules du langage à l'heure et essayer de voir qu'est-ce qu'on appelle le vide aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qu'on appelle l'espace, par exemple, et à partir de ce renouvellement des définitions, de proposer une critique du langage, ou une critique des expressions qu'on utilise tous les jours pour dire ces mots. Par exemple, à propos du temps, quel sujet de demain, vous remarquez que si vous lisez le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin, il y a un chapitre qui s'appelle « Le temps », dans lequel saint Augustin parle du temps. Il a été écrit au 4e siècle après Jésus-Christ. Et très bizarrement, vous comprenez ce qu'il dit. Ce qui devrait nous surprendre. Parce qu'entre saint Augustin et nous, il y a eu Galilée, il y a eu Newton, Einstein et beaucoup d'autres qui ont profondément changé notre façon de comprendre le temps. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, nous parlons comme saint Augustin. Et c'est la raison pour laquelle on comprend ce qu'il dit. C'est que notre langage n'a pas évolué depuis saint Augustin. Et nous parlons du temps exactement comme nous en parlions avant Galilée. Il y a peut-être une phrase qu'on a ajoutée depuis qui est « le temps c'est de l'argent », que ne disaient pas, à ma connaissance, les prédécesseurs de Galilée, qu'on a ajoutée par la suite, mais toutes les autres expressions, « le temps va de plus en plus vite »,« le temps s'écoule »,« je n'ai pas le temps », etc., ça existait avant. Autrement dit, notre connaissance du temps par la physique n'a eu aucun impact sur notre façon de dire le temps. On vit très bien, ça ne nous empêche pas de communiquer et même de se comprendre, mais quelque part c'est gênant. Et pour finir là-dessus, l'an dernier, le sujet de l'agrégation de philosophie pour le concours interne, c'était le temps. Il y avait donc une liste d'ouvrages à lire, saint Augustin, Aristote, Husserl, Kant, Merleau-Ponty, Heidegger, mais pas Einstein. Alors on dit aux gens, c'est quand même bizarre. Et la réponse qui a été donnée par les organisateurs du concours était que les examinateurs qui vont corriger les copies ne sont pas compétents pour... Et donc la philosophie reste enfermée en elle-même, commentant ses propres commentaires ad libitum, alors qu'à mon avis, il y a des découvertes en physique qui correspondent à des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire on ne fait pas des découvertes en philo. On fait des découvertes en physique qui, quand on les replace dans un débat philosophique autour de certaines questions, viennent éclairer ou même contraindre l'ensemble des réponses qu'on peut apporter à ces questions. Et si on ne le fait pas, c'est pas grave. Mais on rate des occasions de réfléchir. Et ça, peut-être que c'est grave. Il n'y a pas que la réforme des temps scolaires dans la vie. Il n'y a pas qu'un seul sujet comme ça. On fonctionne avec des... Voilà, un sujet par jour, deux jours, une espèce de grosse polémique, puis on passe à une autre polémique. Moi, je n'appelle pas ça réfléchir. Et d'ailleurs, enfin bon, c'est un autre sujet. Je pense que c'est des choses qui sont organisées pour faire diversion. Voilà. Et si on était sérieux, c'est-à-dire si on accordait de la valeur à la connaissance, le jour où on a découvert le boson de Higgs et où on a annoncé cette découverte le 4 juillet 2012, on aurait dû tout à faire cessant et expliquer aux gens ce qu'on avait découvert. Mais l'expliquer vraiment, en une heure, deux heures d'exposé. On aurait dû arrêter les médias et consacrer toutes les nouvelles à ce truc. C'est pas ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, dès le lendemain, l'affaire DSK a repris ses droits. D'accord ? Donc voilà. Donc moi, je pense que l'écriture, pour revenir à la question que vous posiez, l'écriture, c'est un moyen de travailler cette question, de savoir ce que diraient les équations, si elles pouvaient parler, c'est-à-dire par contre-coup de voir ce qu'il y a dans le langage, finalement. Est-ce qu'on peut dire la physique dans le langage ordinaire, y compris en y ajoutant du vocabulaire nouveau, les noms que vous avez cités, des particules, on ajoute ces mots au vocabulaire, mais on arrive à dire ce qui se passe dans le monde de l'infiniment petit par des phrases ordinaires. Est-ce que c'est possible? Ou bien est-ce qu'il faut creuser une langue étrangère dans la langue pour dire la science? Moi, je pense que oui. Les médias pensent que non. Puisqu'ils nous demandent d'expliquer ce qu'on sait par la physique, par le langage ordinaire. Mais du coup, quand on fait cela, on rabat la physique dans le langage tel qu'il est, du coup on perd l'originalité des messages, et on donne une sorte de crédit scientifique à la langue elle-même. Alors qu'il faut vraiment la travailler sans cesse pour parvenir à transmettre l'originalité des messages qui nous viennent de la physique. Sinon on les perd. Et dès qu'il y a une petite phrase compliquée, les médias vous arrêtent. Et donc, j'attends avec impatience le 8 octobre prochain, quand on va annoncer que le prix Nobel est attribué au père fondateur de l'idée du boson de Higgs, et ça va être panique dans les rédactions. Ils vont appeler les physiciens, ils vont trouver que les physiciens parlent mal, donc ils vont les remplacer par des journalistes qui vont dire exactement ce que les gens ont envie d'entendre, et non pas ce que nous, on aurait dit à leur place. Enfin, j'attends de voir. Je ne fais pas de procès d'intention, mais je pense que la question du langage, si vous voulez, c'est la question politique cruciale des temps modernes. Et que les pouvoirs, quand je dis les pouvoirs, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, essaient de nous empêcher de nous dire le réel. Voilà. En inventant des phrases qui ne veulent rien dire, en rétrécissant le vocabulaire, etc. De sorte qu'on ne peut plus dire les choses. Bon. L'exemple, si vous me permettez, ça n'a rien à voir avec la physique, mais quand même un peu, c'est la fameuse inversion de la courbe du chômage. C'est-à-dire, inverser une courbe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, en 25 ans, j'ai fait des mathématiques. Je ne sais pas ce que veut dire inverser une courbe. Et je pense que personne ne le sait. Et donc, on fabrique un truc qui est un objectif, sauf qu'il n'est pas défini. Évidemment, c'est voulu. Parce que n'étant pas défini, vous pouvez toujours dire que vous l'avez atteint si, comme définition, vous prenez telle ou telle chose. Mais c'est quand même de l'enfumage profond. C'est enregistré, au fait.
Oui.
Bon, alors je vais arrêter de parler de politique, on va revenir à la physique.
Alors revenons à la physique, justement. Et du coup, vous me lancez sur la question, parce que c'est quelque chose qui traverse ce livre sur discours sur l'origine de l'univers, mais je trouve ça intéressant de faire le point maintenant. Vous l'avez dit, donc, qu'est-ce qu'on a découvert l'année dernière quand on a découvert le boson de Higgs, justement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme vous souhaiteriez que ça apparaisse, peut-être, dans quelques jours ou dans quelques semaines?
Alors, moi, mon philosophe de référence, c'est Wittgenstein. Pour plein de raisons, notamment celle-ci, il a écrit quelque part que le but de la philosophie, notamment la philosophie des sciences, c'est pas d'énoncer des nouvelles propositions. C'est pas de produire des nouvelles conceptions. C'est pas non plus de produire de nouveaux systèmes. Le but de la philosophie des sciences, c'est de clarifier les propositions qui ont déjà été dites. Donc c'est pas d'inventer, c'est de clarifier. Et moi je pense que c'est ça le grand défi. En tout cas, c'est celui que je me suis donné à la mesure de ce que je peux faire dans ce domaine. À propos, par exemple, du Big Bang. Tout simplement parce que j'observe que nous parlons du Big Bang exactement comme on en parlait il y a 50 ans. C'est-à-dire, on le considère comme une métaphore de l'origine, une sorte d'explosion originelle qui aurait créé l'ensemble de ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, tout ce que vous voulez. Sauf qu'entre 1950 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses en cosmologie. Et notamment, on a compris que quand on remonte vers le passé, comme on le faisait dans les années 50, à partir des équations d'Einstein de la gravitation, eh bien on finissait par rencontrer des conditions physiques que ces équations ne peuvent plus décrire parce que d'autres forces que la gravitation entrent en jeu. Les forces nucléaires, les forces électromagnétiques. Du coup, l'extrapolation qu'on avait faite jusqu'à l'instant zéro, comme on l'appelait, la singularité, elle est toujours légitime mathématiquement, mais elle n'est pas légitime physiquement parce que vos équations qui sont mathématiquement justes deviennent physiquement fausses puisqu'elles ne décrivent pas les conditions dans lesquelles sont les particules. Et donc, vous tombez sur ce qu'on appelle le mur de Planck, en deçà duquel vous êtes coincé. Et le résultat important de ces 10 dernières années, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de construire une nouvelle théorie capable d'escalader le mur de Planck, c'est-à-dire de décrire ce qu'il y a eu avant, la singularité initiale disparaît. De sorte qu'aujourd'hui, la question de savoir s'il y a eu une origine de l'univers, au sens propre du terme, le passage de rien à quelque chose est posé. On ne sait pas. C'est une question ouverte. Or, on fait comme si c'était une question fermée. L'univers a une origine. La question est de savoir laquelle c'est. Et je trouve que là, il y a un biais qui fausse complètement les débats, qui fait qu'on organise une pseudo-concurrence plus ou moins conflictuelle entre la science et la religion, alors qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Et que là encore, on devrait davantage travailler ce que disent nos équations, celles de la théorie des cordes par exemple, à propos de l'univers primordial, pour voir que on a enquisté dans le langage une certaine façon de penser le Big Bang qui n'a plus cours aujourd'hui. Bon. Maintenant le boson de Higgs, je ne vais pas vous faire un grand cours là-dessus parce que c'est très long comme histoire, mais en gros, pourquoi c'est une découverte intéressante et pourquoi c'est une découverte qui aurait dû faire qu'on en parle davantage?
Elle est juste intéressante ou elle est primordiale?
Elle est fondamentale parce que si on la prenait au sérieux, on changerait dès la rentrée prochaine les manuels scolaires. Parce que finalement, depuis Newton, on explique, moi aussi j'explique dans mes cours, que la masse d'un objet physique, d'une particule élémentaire, c'est une propriété qu'elle possède en propre. Propriété en propre. C'est-à-dire, c'est une propriété qui est en quelque sorte intrinsèquement liée à l'idée même de matière. On ne voit pas très bien ce que serait qu'une particule de matière qui n'aurait pas de masse. Et on ne voit pas comment de la masse pourrait s'incarner autrement que sous la forme de particules matérielles. Donc entre l'idée de masse, de substance et de matière, il y a une espèce de lien insécable qui se retrouve d'ailleurs dans beaucoup de systèmes philosophiques. On pense la matière et la masse dans le même mouvement, si vous préférez. Et bien ce que montre la découverte du boson de Higgs, c'est qu'on a tort. C'est que la masse d'une particule élémentaire n'est pas une propriété qu'elle a en propre. C'est une propriété secondaire qui vient du fait qu'elle interagit avec le vide, ou le vide quantique, qui n'est pas vide, qui contient un champ avec lequel les particules sans masse interagissent plus ou moins, et c'est l'intensité de cette interaction qui détermine leur masse. Bon, parfois, pour simplifier les choses, je dis que la masse est une mesure de la mauvaise qualité du fartage des skis des particules. Alors, il faut imaginer que les particules sont sans masse, l'électron n'a pas de masse, le quark n'a pas de masse, mais ces particules ont des skis plus ou moins bien fartés, et le champ quantique associé au boson de Higgs, c'est un champ de neige d'épaisseur toujours la même, partout la même. Et bien, les particules qui ont des skis bien fartés vont glisser sans frottement, et nous les verrons glisser à la vitesse de la lumière et nous dirons qu'elles n'ont pas de masse. Celles qui ont des skis mal fartés vont frotter, ça va les ralentir, et nous qui les voyons, nous dirons elles sont massives. Donc vous voyez que la masse n'est plus portée par les particules, mais est fabriquée par une interaction que les particules ont avec le vide. C'est quand même intéressant. Enfin, c'est intéressant, sauf si on s'en fout. Hein, d'accord. Après, si vous me demandez les critères de ce qui est intéressant, mais moi je trouve ça intéressant. C'est presque aussi intéressant que l'affaire Strauss-Kahn, en fait. On n'a pas de chance en physique. Quand on a présenté les résultats du LHC, il y a eu l'affaire Strauss-Kahn qui s'est déroulée pendant plusieurs mois. Quand elle s'est apaisée, on a sorti les résultats du satellite Planck au mois de mars, qui mesure le fond diffus cosmologique. Vous savez, bon, c'est passionnant, ça. C'est quand même des résultats incroyables. C'est des résultats de cosmologie. C'est-à-dire en mesurant le spectre de lumière contenue dans l'univers, le fond, la lumière qui a été émise quand la lumière s'est libérée de la matière, 400 000 ans après le Big Bang, on a mesuré cette lumière avec une précision incroyable. Incroyable. Et le jour où on a annoncé les résultats, c'était l'affaire Cahuzac. Donc, si vous voulez, il faudrait qu'un jour il se calme et qu'on puisse causer 5 minutes. Quoi.
Donc, au niveau du LHC, on vous dit qu'il voit l'univers à 10 moins 12 secondes, pardon, après le Big Bang, et que le mur de Planck, c'est 10 moins 43 après le Big Bang. Est-ce qu'on
J'ai écrit ça tout en disant que ce n'était pas ça qu'il fallait dire. Parce que quand vous dites le mur de Planck, c'est 10 moins 43 secondes après le Big Bang, vous sous-entendez que le Big Bang, c'est l'instant zéro.
Oui.
Qui, justement, est évacué dans les modèles actuels. Mmh. C'est-à-dire, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle le Big Bang, c'est une transition de phase entre un univers d'avant et un univers d'après. Ce n'est pas l'origine.
Et c'est pas une explosion.
Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'origine. L'origine, elle a été simplement déplacée ou mise à l'écart. Elle n'est plus dans nos modèles. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, elle n'a pas eu lieu là. Bon, c'est déjà une information. Et du coup, en effet, je ne sais pas comment dire, mais disons, le boson de Higgs, il correspond à une énergie qui est celle qu'avaient les particules dans l'univers à un certain moment de l'histoire, quand l'énergie moyenne des particules, c'était celle d'un moustique en vol. Et le mur de Planck, c'est une énergie beaucoup plus élevée, c'est celle d'un TGV en circulation, donc une énergie qu'on est incapable de reproduire en laboratoire, ce qui pose la question de savoir si ces théories spéculatives seront testées un jour ou si elles resteront spéculatives.
Et est-ce qu'on ira aussi vers une théorie du tout ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça par rapport à la théorie, la physique quantique, la théorie de la relativité générale qui est plus vers l'infiniment grand, donc la physique quantique vers l'infiniment petit ? Et les physiciens seraient à la recherche, en tout cas, d'une théorie du tout.
Mais disons, on a une théorie qui décrit 3 interactions sur 4. Cette théorie, c'est la physique quantique, qui décrit les interactions nucléaires, l'interaction électromagnétique, dans un truc qu'on appelle le modèle standard, dont le boson de Higgs est une pièce maîtresse. Ça a l'air de bien marcher. On a une théorie pour la gravitation qui s'appelle la relativité générale, qui va fêter son premier centenaire dans quelques temps, là, en 2014 ou 2015. Et le problème, c'est que si on veut aller en amont du mur de Planck, il faut décrire les quatre forces en même temps. Or, l'espace-temps de la relativité générale n'a pas du tout les propriétés de l'espace-temps de la physique quantique. Donc on a un problème de compatibilité de l'espace-temps. On essaie de faire une synthèse en faisant des hypothèses très audacieuses, en augmentant le nombre de dimensions de l'espace-temps, ou bien en imaginant qu'il est atomique et pas lisse, qu'il est granulaire et non pas continu. Enfin bref. Mais pour aller tester ces théories, voir laquelle est la bonne, ou même voir si seulement une est bonne, il faut des expériences qu'on n'a pas. Et donc on peut toujours dire qu'on a une théorie du tout qui décrit les quatre forces en même temps, mais d'abord on en a plusieurs, et on ne peut pas imaginer qu'il y ait plusieurs théories du tout. Donc il faut savoir quelle est la bonne. Et ça, ça va mobiliser des critères expérimentaux, qui pour l'instant n'existent pas, et puis aussi des critères esthétiques. On va préférer cette théorie à celle-là parce qu'elle nous semble plus cohérente, plus opératoire, plus efficace, plus esthétique. Enfin, et on va peut-être laisser place à une forme de subjectivité qui sera d'autant plus déterminante que les résultats expérimentaux seront rares ou absents. Donc c'est ça qui est intéressant dans la période actuelle, c'est que pour l'instant le LHC est arrêté, on est en train de changer les connexions pour pouvoir doubler son énergie, on va reprendre en 2015. Avec une énergie deux fois plus grande que celle qu'on avait jusqu'à maintenant. Et la question est de savoir si on va voir des nouvelles choses ou si on ne va voir que des choses qui sont actuellement prédites par le modèle standard. Si on ne voit pas de physique nouvelle, il y a peu de chances qu'on puisse continuer. Si au contraire on voit, je sais pas moi, des particules de Majorana, ou des particules de matière noire ou même une dimension supplémentaire d'espace-temps, là on a des chances de continuer parce qu'on a rouvert une brèche. On aura même tué des idées, ce qui est le but de la recherche. C'est un peu comme ce que disait Wittgenstein, c'est pas forcément de fabriquer de nouvelles idées. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup trop d'idées, il y a beaucoup trop de théories. Donc il faut tuer des idées. Et pour tuer des idées, il faut des machines qui donnent des résultats, qui tuent des idées. C'est pas faire autrement. Et donc voilà, on attend des crimes dans le champ des concepts. Des meurtres.
En tout cas, le LHC a l'air de passionner les foules. J'ai vu qu'ils avaient fait une journée porte ouverte la semaine dernière où 70 000 personnes sont passées durant tout le week-end. Donc,
Oui, je sais, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons?
Ah.
Ou est-ce que c'est parce qu'on a donné ce surnom à la particule de...
La particule de Dieu?
La particule de Dieu. Bon, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est sûr, il y a des demandes de visite au CERN comme jamais il y en a eu. Mais bon, moi, si vous voulez, je suis... comme des années que j'essaie de faire tout ça, et je suis sceptique. Voilà, je suis sceptique au sens où je m'interroge sur pourquoi ça marche pas, quoi. Pourquoi on n'arrive pas à transmettre les idées de la physique moderne dans le public, dans l'enseignement déjà, pourquoi ça marche pas alors qu'il y a plein de bouquins, il y a plein d'émissions, il y a des films. Les physiciens passent quand même beaucoup plus de temps qu'avant à discuter avec le public. Qu'est-ce qui empêche que ça marche? C'est ça la question que je me pose.
Est-ce que c'est le cas que de la physique ou est-ce que ça peut être le cas d'autres sciences? C'est pas pour la chimie, les mathématiques.
C'est un peu spécial la physique, c'est vrai, c'est compliqué. Mais il y a quand même, dans beaucoup de domaines, l'émergence de ce que moi j'appelle un populisme scientifique. C'est-à-dire des gens qui utilisent des arguments de bon sens pour critiquer la valeur de vérité des discours scientifiques. Voilà, ça c'est un truc qui m'inquiète. Vous vous souvenez de cette couverture d'un grand magazine français où, à la fin du mois de mai 2013, c'est-à-dire après un mois de mai particulièrement froid, dans toute la France, il y a eu moins 3 degrés, je crois, par rapport à la moyenne. Et ce magazine hebdomadaire, attitré en une climat, le réchauffement, c'est pour quand? Vous vous souvenez de ça? Bon, et cette couverture n'a pas fait scandale. Alors que c'est un authentique scandale, je veux dire, scandale intellectuel. C'est le message qu'on veut nous transmettre là, c'est que s'il y avait un changement climatique, on devrait s'en rendre compte. vous, Français, qui vivez en France, sous les latitudes françaises, par votre corps et votre ressenti thermodynamique, vous êtes capable de dire ce qu'il advient du climat de l'atmosphère terrestre. C'est quand même du populisme incroyable. D'abord parce qu'il n'y a pas de lien entre la climatologie et la météorologie. Non, on ne peut pas prédire la météo, mais on peut prédire le climat. C'est les mêmes équations, mais on néglige pas les mêmes termes. De même qu'on ne peut pas prédire le taux de croissance du PIB. Pardon, on peut prédire le taux de croissance du PIB, mais on ne peut pas prédire la bourse d'après-demain. C'est le même truc. On ne peut pas prédire les fluctuations, mais on peut prédire les tendances. Bon. Donc déjà, c'est vraiment prendre les gens pour des crétins, quoi. Mais ça marche. C'est-à-dire, il y a des protestations, mais elles ne sont pas relayées. Et moi, mes voisins, par exemple, ils me disent « Ouais, mais les scientifiques, là, ils disent n'importe quoi. » Ils ne sont pas allés regarder le climat de l'époque ou la météo de l'époque en Laponie, par exemple. Au mois de mai 2013, en Laponie, il faisait 24 degrés. Non, mais en France, il fait moins 3 degrés. Donc, ça veut dire que les scientifiques se trompent. Moi, ça m'inquiète parce que ça milite pour penser que nous préférons les idées que nous aimons tout en déclarant aimer la vérité. En fait, nous déclarons vraies les idées que nous aimons. Voilà. Mais alors, donc, ça, c'est la porte ouverte à toute forme de démagogie, quoi.
Alors, peut-être que les scientifiques ne sont plus pris au sérieux sur le nuage nucléaire qui se serait arrêté à la frontière.
Bah, vous savez que ça a été fait l'objet de procès, etc. Donc, même vous devriez même plus avoir le droit de le dire parce que personne ne l'a dit, ça. Ça a été dit par un journaliste de RTL qui était en Allemagne, à la frontière, et qui voyait qu'en Allemagne, il y avait des mesures prises sur les marchés pour empêcher la vente des salades, etc., alors qu'en France, il n'y avait pas de mesures. Et il a dit sur RTL, tout se passe comme si le nuage n'avait pas traversé la frontière. Ce n'est pas du tout un propos de scientifique, etc., qui n'aurait de toute façon pas parlé en ces termes. Maintenant, je ne veux pas du tout défendre la communication des scientifiques en général, mais en l'occurrence, il n'y a pas eu de mensonge de leur part, puisqu'ils ont dit que le nuage était sur la France. Et nous qui étions au CEA, je peux vous dire qu'on a vu le week-end du 1er mai, moi je faisais le marathon de Paris, je m'en souviens très bien, et les compteurs GGR crachaient la mort. Donc vous savez très bien que le nuage était en train de passer, et on a transmis toutes les infos à l'IRSN, etc. Quoi. Donc je ne vois pas très bien, en l'occurrence, en quoi on peut les accuser de mensonge. Il faut distinguer d'ailleurs ce que disent les scientifiques sur un événement dont on ne comprend pas toujours en quoi il consiste. Hein. Vous savez que les Russes n'ont pas dit qu'une centrale avait pété. Hein. Ils n'ont pas dit, ils l'ont caché. C'est les satellites américains qui ont vu des mouvements de troupes, des mouvements de foule, des déplacements, etc. Et surtout les Suédois qui ont mesuré une radioactivité anormale et qui ont téléphoné aux Russes. Donc c'est plutôt les pouvoirs politiques, en l'occurrence, qui ont bloqué l'information. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où les scientifiques mentent? Ben, sans doute, oui. Par intérêt, par incompétence, il est maintenant démontré que des scientifiques se sont fait payer pour dire des mensonges. Par exemple, à propos du tabac. Par exemple, à propos du climat aussi. On sait très bien que le climato-scepticisme a été acheté, en quelque sorte. Donc je ne dis pas que les scientifiques disent la vérité. Je dis simplement qu'on finit par acquérir des compétences et des connaissances dont on est à peu près sûr. Et quand vous entendez les mêmes gens dire « la science, c'est le doute », tendez l'oreille. Ça devient louche. Quand les gens disent « la science, c'est le doute », donc on a le droit de douter de tout résultat scientifique, faites attention. C'est quand même bizarre que ces gens disent tous la même chose en même temps. Et ce qui permettait de repérer d'ailleurs les climato-sceptiques à cette époque-là, c'est que tous disaient « la science, c'est le doute ». Non. Ce qui est le doute, c'est la recherche. Le boson de Higgs, on ne savait pas s'il existait ou pas. On doutait. C'est pour ça qu'on a cherché. Mais il y a des résultats acquis dont on ne doute plus. Par exemple, on pense que la Terre est ronde. Alors, il y a une association des amis de la Terre plate. Bon, on veut bien les écouter, c'est sympathique. Il est hors de question de dissoudre cette association. Qui a beaucoup de membres, notamment aux États-Unis. Les amis de la Terre plate, c'est des milliers de gens. C'est sympathique, on ne va pas les interdire. Mais quand ils parlent, on les écoute d'une oreille distraite. Parce que nous, on sait que la Terre est ronde. Ouais. Donc il y a des résultats qui ont été acquis. Et étant acquis, on ne va pas y revenir. De même, nous savons que l'atome existe. Alors on nous dit, mais vous savez que l'atome existe, mais en fait l'atome avait été pensé par les Grecs, il a été travaillé intellectuellement avant d'être découvert, donc il était normal que vous le découvriez, puisqu'il faisait partie de votre système de référence. Oui, sauf que l'atome qu'on a découvert n'a aucune propriété en commun avec l'atome des Grecs. Autrement dit, l'atome de la physique d'aujourd'hui est un atome qui n'a jamais été pensé au préalable. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui s'est imposé à nous et que nous n'avions pas spécialement intérêt à fabriquer à l'avance. On a découvert ce truc et on a découvert que ce truc n'avait pas les propriétés qu'on lui attribuait autrefois. On en a pris acte. Ça veut dire que nous sommes capables d'entendre de la nature des messages que nous n'avions pas formulés avant qu'elle nous les envoie. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à regarder. Donc, moi, je pense qu'il faut distinguer la recherche et la science. En science, il y a des choses qui sont certaines. Ça ne veut pas dire qu'elles soient vraies. Mais dire l'atome existe, c'est dire une chose qui est plus certaine que dire ma voisine de palier que je croise une fois par jour existe. Parce que prouver l'existence de sa voisine de palier, c'est quand même très compliqué. Vous pouvez être victime d'hallucinations, victime d'un stratagème, vous pouvez avoir une illusion, vous pouvez avoir rêvé qu'elle existe, etc. Et donc c'est très difficile de prouver l'existence de sa voisine de palier. Alors que pour l'atome, on a une multiplicité de preuves différentes qui se recoupent pour aboutir aux mêmes conclusions. Donc je dirais que moi, l'atome existe maximalement au sens où, de toutes les choses qu'on connaît, elle est celle dont on peut le mieux garantir qu'elle existe. Voilà. Et donc, les scientifiques ne sont pas des gens plus honnêtes que les autres. Ils peuvent mentir, ils peuvent être manipulés, ils peuvent être bêtes aussi. Ils peuvent dire des bêtises, ce n'est pas interdit. Mais ils n'ont pas le monopole, comme vous savez. Maintenant, est-ce qu'on doit leur faire confiance ? Moi, je sais pas, je pense que quand vous avez une question à poser sur l'antimatière, le mieux, c'est d'aller interroger un spécialiste dans l'antimatière. C'est le mieux que vous puissiez faire. Peut-être plusieurs, ils peuvent être divergents, mais c'est le mieux à faire. Aller interroger un spécialiste de l'antimatière. Plutôt que un policier ou un journaliste. C'est ça que je veux dire. Mais évidemment, dans certaines situations, ils peuvent mentir. Ou bien ils peuvent être embarrassés par des questions. Par exemple, si vous demandez à un physicien qui travaille dans les nanosciences quelle est la toxicité des nanoparticules, d'abord c'est un sujet très compliqué, et il va vous dire, s'il est honnête, on ne sait pas. On ne sait pas, donc on fait des recherches, on fait des études. Mais on ne sait pas, c'est pas une réponse qui vous va. Donc vous allez forcer sa réponse, ou c'est oui ou c'est non. Et puis de toute façon, si vous êtes journaliste et que vous l'interrogez, vous allez lui laisser peu de temps pour parler. Et donc vous allez l'obliger à dire une réponse qui sera en fait inexacte. Parce que la vraie réponse qu'il voudrait donner demandera des précautions, demandera de la prudence, dont l'énoncé est incompatible par la lenteur, par la durée qu'il impose avec le système médiatique actuel.
On ira, reviendra peut-être tout à l'heure, qu'on ait le temps de parler de différents ouvrages. Celle-ci, je ne sais pas si c'est une science. Les anagrammes. C'est si je fais le lien avec le livre précédent, donc l'origine de l'univers devient un vide noir grésillé, ce qui convient assez bien. En discutant, en préparant cette conférence, j'ai discuté avec quelqu'un qui est plutôt dans le domaine scientifique, qui trouvait que les anagrammes étaient plutôt du hasard. Et en discutant avec quelqu'un qui est plutôt dans le littéraire, elle me disait qu'elle trouvait que les anagrammes étaient très mathématiques. Alors, est-ce que c'est du hasard, des mathématiques?
Les anagrammes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une activité kabbaliste. C'est la kabbale qui... Bon. Moi, je ne suis pas du tout kabbaliste. Je considère que les anagrammes, c'est exactement comme ce que les Anglais appellent le cherry picking, c'est-à-dire la cueillette des cerises. Quand vous cueillez des cerises, vous prenez celles qui sont belles et vous laissez celles qui ne sont pas belles. Bon, les anagrammes, c'est pareil. Quand on en trouve une qui est belle, qui fait sens, on la prend. Et puis parfois, et même souvent, on ne trouve rien, donc on laisse. Et ce qui est magique et qui fait croire à un sens caché du monde, c'est quand elle est tellement belle que on est scotché, quoi, comme si l'histoire était écrite, en oubliant que ça ne marche qu'en français, donc c'est pas une loi universelle, etc. Mais il arrive que ce soit vraiment, vraiment très, très beau, quoi. Et moi, je cherchais des anagrammes pour je fais ça dans les réunions où je m'ennuie un peu, je cherche comme ça. Mais je cherchais des anagrammes à deux mots et un jour, j'étais tombé sur un livre de Jacques Périssalco qui s'appelait Le Petit Pékinois. C'est une belle histoire, d'ailleurs. J'avais vu ce bouquin qui s'est vendu à 50 exemplaires. Mais il y avait des anagrammes extraordinaires de noms communs. Et de noms propres, surtout. De noms propres. Laurence Parisot, qui donne écrit-le au patron. Je trouve ça rigolo. Et puis d'autres encore plus fortes. Et j'ai acheté ce livre. Et je l'ai mis dans ma bibliothèque, plutôt devant ma bibliothèque, de façon à ce qu'il soit très visible. Parce que je l'aimais beaucoup. Moi, je mets en avant les livres que j'aime bien. Et un jour, Arte est venu chez moi pour m'interroger sur le boson de Higgs. Et c'était il y a très longtemps, et c'était pour le web d'Arte, pas la télévision, pour le web. Donc j'explique le boson de Higgs, et j'étais chez moi, devant ma bibliothèque, avec le bouquin. Et un copain de Jacques Périssalco a vu la vidéo, et il lui a dit, tiens, il y a un physicien là qui a acheté ton bouquin. Et il a pensé que j'étais donc le seul à avoir acheté le livre. Et quelques années plus tard, ça remonte à très longtemps, quelques années plus tard, je vais à Tours pour un colloque de physique. Et il y a eu un petit encart dans le journal disant qu'il y avait un colloque de physique à Tours avec le programme des sessions. Et là, Jacques Périssalco a vu que j'étais parmi les conférenciers. Et il est venu. Et après la conférence, on s'est présenté, on a discuté, on a bu un verre. Et là, je lui ai proposé qu'on fasse un bouquin parce que c'est là que j'ai eu l'idée de faire des anagrammes avec des petits textes. Parce que parfois, il n'y a pas besoin de texte tellement c'est fort. Et puis parfois, il faut quand même en mettre un quand le lien entre la phrase de départ et la phrase d'arrivée n'est pas net. Par exemple, collisionneur d'électrons. Collisionneur d'électrons, c'est des accélérateurs de particules qui permettent de faire de la physique intéressante. Ben, l'anagramme, c'est « les crocodiles n'ont rien lu ». Bon, on ne voit pas le lien, mais en même temps, ça peut être un exercice de pataphysique de trouver un lien entre ces deux choses. Et à d'autres fois, le lien, il est tellement évident que vaut mieux pas mettre de texte. Par exemple, quand je dis ça d'ailleurs à des copains du CERN, ils sont quand même scotchés. L'accélérateur de particules qui permet de découvrir la particule de Dieu, hein, si on en croit une certaine vulgate, l'accélérateur de particules, ça donne éclipsera l'éclat du créateur. Donc là, même quand on est physicien placide, quand on entend ça, ça fait le truc. Ou même quand on est, par exemple, physicien au CEA et qu'on travaille sur le nucléaire, on sait que le nucléaire c'est dangereux, mais on pense qu'il y a des techniques et des méthodes permettant de le rendre moins dangereux. Quand on vous dit que l'anagramme de centrale nucléaire, c'est le cancer et la ruine, ça fait un choc. C'est d'ailleurs pour ça que cet anagramme n'est pas dans le livre. Le médiator, ça fait la mort idéale. Vous voyez
On a Monsanto.
Voilà, entreprise Monsanto, ça fait un poison très rémanent. Donc voilà, il faut faire attention quand on choisit un nom à ce qui n'est pas dans ce nom des anagrammes qui sont tueuses.
Moi, ma préférée, c'est les paradoxes du chat beurré, mais je vous laisse la découvrir.
Mais je vous le dis parce que ça va sortir dans quelques jours. Jacques Périssalco, il sort un deuxième livre, là, qui s'appelle Anagramme en folie, auquel je n'ai pas collaboré parce que je veux pas me spécialiser dans les anagrammes, puis ça finit par rendre fou, quoi. Il faut que ce soit un loisir épisodique, mais il ne faut pas que ce soit un travail. Alors lui, il en a fait un travail, et vous verrez qu'il en a trouvé qui sont absolument incroyables. Notamment, une qui m'a montré, on prend tous les prénoms de Marcel Proust. Donc il y en a plusieurs, puis ça se termine par Marcel Proust, je ne les connais pas par cœur. Et ça donne, il songe à l'urgence, et il songe au temps retrouvé. Ça fait quand même quelque chose. Donc dans ces cas-là, Donc notre technique, c'était pas de chercher toutes les combinaisons, parce qu'il y en a factoriel n, c'est impossible, mais de trouver des anagrammes qui vont dans le sens de ce que dit la première phrase, qui l'illustre en quelque sorte. Et donc ça permet de la tirer vers des mots qu'on veut trouver à la fin, et s'ils sont dans le texte de départ, évidemment, après il suffit de bricoler. C'est pas une recherche aléatoire, c'est même pas une recherche mathématique, c'est presque une recherche poétique. Hein. D'ailleurs, j'étais là quand Périssalco a trouvé une anagramme que je trouve vraiment étonnante. C'est quand vous prenez le vrai nom de George Sand. Donc elle s'appelait Aurore Dupin, baronne du Devant, alias George Sand. C'est son vrai nom d'état civil. Et donc avec Périssalco, on regarde ça. Et le lendemain matin, il sort... valsera d'abord au son du piano d'un génie étranger. Donc si vous voulez, Chopin est là, et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand George Sand a vu Chopin, elle n'est pas du tout tombée amoureuse. Il a commencé à jouer du piano, elle a un peu dansé, et puis c'est comme ça que c'est parti. Quoi. Et là, quand même, même quand on est placide, ça fait quelque chose.
Alors maintenant, on va passer à votre dernier ouvrage, En cherchant Majorana, donc sur Ettore Majorana, physicien italien. Vous avez failli ne jamais écrire ce livre, si vous n'aviez pas reçu un mail l'an dernier. Et vous dites même que c'est la prison qui vous a mené jusqu'à Ettore Majorana. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment vous êtes venu à rencontrer ce personnage ?
Imaginez que l'enregistrement se coupe maintenant, et les gens écoutent, c'est la prison qui vous a mené à... Bon.
C'est mon côté journaliste.
En fait, ça fait très très longtemps que je voulais écrire sur Majorana, mais en fait, j'osais pas trop. Et puis, après le discours sur l'origine de l'univers, j'avais décidé d'arrêter longtemps d'écrire. Parce que c'est quand même une maladie d'écrire. C'est quand même un truc...
Une authentique folie.
Un jour, j'ai donné une conférence, je sais plus très bien où, mais... Après la conférence, il y avait un libraire qui vendait tous les livres que j'ai écrits et tous ceux auxquels j'ai collaboré. Les livres collectifs. Moi, j'ai pas ça chez moi. J'ai pas tous ces bouquins chez moi. Et là, j'avais tous les bouquins. Et là, j'ai vraiment décidé d'arrêter. C'est-à-dire, c'est vraiment... Ça vous donne l'impression d'être un polygraphe, quoi. Bon. Donc, j'ai dit, j'arrête. Et puis, en effet, Majorana m'a repris. Alors, l'histoire est la suivante. Quand j'étais étudiant, comme tous les étudiants, enfin beaucoup en tout cas, je devais, pour payer ma petite chambre d'étudiant, donner des cours particuliers pour gagner de l'argent. Bon. Donc je donnais des cours dans le 7e arrondissement parce que c'était là que les cours étaient les mieux payés. Je chargeais un peu le truc, quoi. Mais en même temps, je donnais des cours à la prison de Fresnes. Parce que j'étais à l'école centrale qui est juste à côté de Fresnes. Donc tous les jeudis, je donnais des cours particuliers à des prisonniers qui préparaient le bac à des âges différents. Il y en a qui étaient même assez âgés, mais ils passaient le bac. C'était des gens qui étaient en préventive, donc pas jugés, donc souvent dans des états de stress assez importants. Et en fait, c'est une activité qui me passionnait vraiment. Bon. Du coup, j'avais tendance à la privilégier par rapport aux cours dans le 7e arrondissement. Et j'ai arrêté les cours dans le 7e, je donnais des cours en prison, mais ils n'étaient pas payés. Donc, ma chambre, j'étais à sec, quoi. Donc, j'ai décidé de faire un stage d'été qui soit le mieux rémunéré possible. Donc, je suis allé au bureau des stages, j'ai demandé un stage qui soit bien payé, quoi. Et on m'a dit, tiens, il y a des stages au CERN qui sont payés en francs suisses. C'est des stages d'étudiants d'été, donc tu suis des cours le matin et l'après-midi, tu travailles dans une équipe de physiciens. Et c'est payé tant. Alors c'était une somme énorme. Donc évidemment, j'ai fait un dossier. À l'époque, il suffisait de remplir une page. Une lettre de recommandation d'un seul professeur pour constituer le dossier. Aujourd'hui, c'est 20 pages, des certificats dans tous les sens. Enfin, bon. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été pris. Donc je suis allé à Genève, au CERN. Pendant 3 mois, ça a changé ma vie parce que j'ai découvert ce qu'allait devenir mon métier. J'étais fasciné par ce qu'on me racontait, par le vide quantique dont on m'avait jamais parlé, par les accélérateurs de particules dont on m'avait jamais parlé, par les quarks dont on m'avait jamais parlé, alors que j'étais étudiant en physique. Hein. Donc j'étais absolument fasciné. Et en fait, entre le laboratoire où je travaillais et la cantine, il y avait une rue, et toutes les rues du CERN portent un nom de physicien. Et je connaissais tous les noms qu'il y avait, Rutherford, Einstein, Schrödinger, c'est des noms que je connaissais. Puis la rue que je prenais tous les jours, elle s'appelait la rue Ettore Majorana. Je ne connaissais pas ce type. Je demande qui c'est, personne ne me répond. Jusqu'au jour où arrive un physicien italien qui répond à mes questions et qui me dit « Ettore Majorana, c'était un physicien surgénial qui a travaillé dans les années 30 avec Fermi. Il a très peu publié, mais il a fait des choses géniales. Et un jour, il a disparu. Il a annoncé qu'il allait disparaître. Et on ne l'a plus jamais revu. Bon, ça m'a intéressé. Donc j'ai été à la bibliothèque, j'ai pris des articles de lui. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ce gars-là. J'ai même écrit un peu sur lui en 2005 dans un livre qui s'appelait « Il était cette fois la révolution », où il y avait un portrait de lui. Et puis en 2006, on a célébré le centième anniversaire de sa naissance en Italie. J'y suis allé et j'ai vu qu'on venait de retrouver des milliers de pages de manuscrits qui étaient dans une malle. Et j'ai commencé à regarder ça avec d'autres physiciens. Et on a vite vu que ce type-là, dans les années 30, a fait la physique des années 60. Et en plus, il a une personnalité impressionnante, une trajectoire existentielle passionnante. Il a disparu à 31 ans quand même. Et puis en Italie, il y a la rumeur selon laquelle il a découvert ou pensé la bombe atomique avant tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il aurait disparu. Bon, il y a d'autres thèses, monastère, enlèvement par les nazis, plein de trucs. Bon, et je me disais, mais il faudrait quand même que j'écrive un livre sur ce gars-là. Bon, mais c'est un personnage tellement monstrueux. Et ces manuscrits sont tellement incroyables que je ne voyais pas comment je pourrais trouver le temps de faire ce livre. Quoi. C'est trop de documents, trop de... Bon, et donc j'ai décidé de laisser tomber et d'attendre la retraite.
Encore une fois.
Et puis un jour... bon, mais quand même, je continue à m'intéresser à lui, mais je n'écrivais pas. Quoi. Mais à l'école normale, j'ai donné un séminaire sur un manuscrit non publié de Majorana. J'ai donné ce séminaire en 2011, en 2012, je ne sais plus. Donc il y a eu une affiche annonçant le séminaire. J'ai donné ce séminaire et voilà. Et quelques temps plus tard, je reçois un mail d'Ettore Majorana. Là, j'ai frotté les yeux, parce que si vous faites le calcul... Aujourd'hui, il aurait 107 ans. Donc au moment où j'ai reçu le mail, 105 ans, il y a des rumeurs qui courent qu'il s'est réfugié en Amérique du Sud, qu'il est toujours vivant. Bon. Donc je me suis dit, tiens... Donc je clique, j'ouvre le truc et je lis un mail en anglais qui était en fait rédigé par le neveu d'Ettore Majorana qui s'appelle Ettore Majorana. Donc un de ses neveux qui a 52 ans, donc il est plus jeune que moi, mais il a un oncle plus âgé que mon grand-père. Étonnant, parce qu'il a un oncle qui est né en 1906. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de personnes qui ont plus de 50 ans aujourd'hui qui ont un oncle né en 1906. Bon, bref, il m'écrit, voilà, j'ai vu que vous aviez donné une conférence sur les travaux de Majorana, ça m'intéresse d'en parler avec vous. Moi, je connais bien sa vie, mais je ne connais pas son travail scientifique. Et donc, on s'est rencontrés à Paris, on est devenus assez copains. Enfin, assez vite, on a parlé des heures, comme ça. En fait, il a parlé des heures, pour dire la vérité. Moi, j'en ai pas placé une. Et puis, voilà, il m'a dit, si vous voulez, vous pouvez venir à Rome, je vais vous montrer des documents. Et donc, j'ai fait tout le parcours. Je suis allé à Rome, je suis allé à Catane, où il est né. Je suis allé à Pise, où il y a les archives. Je suis allé à Naples, où il a enseigné. J'ai fouillé dans les archives de l'Université de Rome, les archives d'Amaldi, qui était un physicien travaillant avec lui. J'ai découvert des trucs incroyables. J'ai pris le bateau qu'il a pris entre Naples et Palerme, la même heure que lui. Vous savez, il a écrit une lettre le 26 mars 1938, en disant ma décision est irrévocable, je vais prendre le bateau. C'est une lettre qu'il écrit au directeur de l'université de Naples, en disant j'ai pris une décision, je vais disparaître. Je te demande de bien saluer les élèves que j'aimais bien. Je sais que je vais te mettre dans l'embarras, mais bon, voilà, je prends le bateau et je vais disparaître. Donc tout le monde a cru qu'il allait se suicider. Puis en fait, il est arrivé à Palerme. Et à Palerme, il a écrit un télégramme disant finalement non, je vais rentrer ce soir par le même bateau. Simplement, sache que je n'enseignerai plus. Bon. Je ne suis pas une jeune fille d'Ibsen. Je t'expliquerai plus tard. Bon, et on l'a jamais revu. Voilà. Et donc le directeur, il a reçu en même temps la lettre qui annonce la disparition et le télégramme qui annonce la non-disparition. Donc il annonce, il reçoit Majorana vivant en même temps que Majorana mort. Donc il reçoit ce qu'on appelle nous un chat de Schrödinger. Hein. Et donc il y a une mise en scène de sa disparition par Majorana qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs j'ai trouvé des choses grâce à l'aide de son neveu. Donc si vous voulez, c'est impossible aujourd'hui de savoir ce qui lui est arrivé parce que quand vous prenez une hypothèse, bah, vous arrivez assez rapidement à sa contradiction. Et donc en fait, toutes les hypothèses se chevauchent et il n'y en a aucune qui puisse être... Donc c'est quand même assez incroyable, quoi, parce que il y a plein de gens qui ont disparu, il y a plein de gens qui ont annoncé leur disparition, mais on a toujours retrouvé des choses. Diesel, par exemple, Diesel, il a disparu dans la mer du Nord, mais il n'a pas annoncé sa disparition. Alors il y a des thèses selon lesquelles il a été assassiné, enlevé, jeté dans la mer, ou il se serait même suicidé, mais il y a un nombre fini d'hypothèses. Avec Majorana, c'est absolument impossible. Et tous les jours, il y a un article dans la presse, ou bien tous les ans, un nouveau livre qui vient annoncer une nouvelle hypothèse. La dernière en date, d'ailleurs, a été écrite par un membre de sa famille qui s'appelle Roncoroni. C'est l'idée qu'en fait, il a disparu, il s'est réfugié dans le monastère, il était malade et il est mort assez rapidement, en 39, de maladie. Mais il y a une autre hypothèse qui est que en fait, lui qui n'a jamais eu d'histoire d'amour de sa vie, enfin, on n'en connaît pas en tout cas, ni hétérosexuel ni homosexuel, il n'y a aucune trace, il serait tombé fou amoureux d'une de ses étudiantes. Parce qu'il faut savoir qu'en 1938, à Naples, les étudiants qui étudiaient la physique théorique étaient des étudiantes. C'est quand même incroyable, ça. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Regardez les bancs de la Sorbonne en physique en 1938, vous allez voir. S'il y a beaucoup d'étudiants, il n'y a que des hommes. Et c'est vrai en Autriche, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai dans tous les pays européens, il n'y a que des hommes en physique théorique. Mais à Naples, en 38, sur 5 étudiants qu'il a, il y a 4 femmes. Et l'étudiant qu'il a, qui s'appelle Sciotti, en fait, il est là parce qu'il est tombé amoureux d'une femme très belle qui s'appelle Gilda Senatore, qui est au premier rang et qui est morte. Moi, j'avais rendez-vous avec elle à Naples. Je suis allé à Naples en janvier 2013, et j'avais rendez-vous avec elle, elle avait 103 ans. Et puis elle est morte en décembre. Mais j'ai retrouvé des interviews d'elle à la télévision, etc. Et c'est à elle que Majorana a remis des manuscrits, parce que le jour où il a disparu, il est allé à l'université, alors qu'il n'avait pas cours. Mais il cherchait des étudiants auxquels remettre des chemises avec des manuscrits. Et c'est à elle qu'il a remis le manuscrit, et il lui a dit, voilà, on en parlera plus tard, faut que je parte, on en parlera plus tard. Mais elle n'a pas du tout compris qu'il était en train de disparaître. Et donc, il y a la thèse selon laquelle, en fait, il était amoureux, mais pour des raisons diverses, notamment liées à sa santé, sentait qu'il ne pouvait pas vivre cet amour, donc il aurait disparu. J'y crois pas une seconde, mais c'est pour vous dire que Majorana sert d'instrument à toute forme de projection qui vont de l'espionnage au meurtre, à la folie, etc. Alors que je pense, moi, que c'était un type tellement génial qu'il ne pouvait plus communiquer avec autrui. Même avec Fermi, il ne pouvait plus. Il était trop en avance et donc il s'est arrangé pour qu'on retrouve ses manuscrits bien plus tard, mais il savait que de son vivant, il ne pouvait pas être compris. Donc il a disparu sans doute pour se suicider, mais peut-être qu'il n'a pas eu le courage. D'ailleurs, dans son télégramme, il dit « la mère m'a refusé ». La mère m'a refusé. C'est-à-dire, il a dû tenter le suicide, mais ça n'a pas marché. Donc la mère m'a refusé. Et c'est vrai que j'ai pris le même bateau que lui, hein, la même compagnie qui existe toujours. Bon, la mer Tyrrhénienne, la nuit en mars...
C'est presque un pèlerinage quasi religieux. J'ai trouvé que c'était presque un pèlerinage un petit peu quand vous êtes sur ces traces, parce que lorsque vous retrouvez un de ses livres, je crois, chez son neveu justement, vous retrouvez ses livres dans une bibliothèque et vous écrivez, il a écrit son nom au crayon sur la première page, j'ai l'impression de trouver une relique et je prends une photo.
Ouais, je suis un peu fétichiste.
Vous dites, j'ai parcouru ébahi des centaines de pages de calculs, cette nuit que vous avez passée sur ce bateau.
Non mais c'était un pèlerinage. Moi j'appelle ça voyage, mais en fait c'était vraiment un truc où j'essayais de le rencontrer d'une certaine façon. D'ailleurs je suis allé au CERN, je vais souvent au CERN, mais je ne vais jamais dans la rue Majorana. Donc avant de publier le livre, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir cette rue, quoi. Et puis je ne la trouve plus, elle a disparu. Donc je suis allé à la direction du CERN, et là ils me disent que cette rue n'a jamais existé. Donc je me suis fabriqué un faux souvenir. C'est quand même fou ça. Mais je sais que c'est pendant cet été-là que j'ai entendu parler de lui, et je crois que grâce à mon enquête, j'ai compris comment ça s'est passé. C'est que j'ai retrouvé une lettre écrite par un professeur que j'avais à l'époque, qui s'appelle Weisskopf, qui était très âgé, mais il avait été le thésard de Pauli, il avait travaillé avec Einstein. Et dans une lettre, il raconte qu'il a rencontré Majorana à Copenhague. En 1934, avec Niels Bohr, qu'il avait trouvé génial et bizarre, etc. Mais il en parle, et visiblement, il est fasciné. Et je pense que dans l'un de ses cours, il nous a parlé de Majorana. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui pour la première fois. Mais mes collègues physiciens ne savent pas qui c'est, en France, personne ne le connaît, donc c'est quand même quelqu'un qui est peu connu.
Et... Justement, vous dites que chaque fois, l'envergure scientifique est soulignée, mais elle n'est jamais exposée, parce que... En tout cas, en Italie, peut-être, c'est la disparition qui aurait englouti l'homme. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ses recherches?
C'est quelqu'un qui... Moi, je voulais faire un livre sur ses travaux. Ouais. Mais je n'ai pas réussi parce que, d'abord, je me suis laissé aspirer par la disparition. Même sur la disparition, à écraser l'œuvre, elle a écrasé le personnage. Il faudrait qu'on arrête avec la disparition. N'empêche que je me suis laissé prendre, comme tout le monde. Parce que c'est quand même une mise en scène qu'il a faite, qui est fascinante. Et puis, j'ai eu la pression de l'éditeur que, voilà, la physique, ça se vend pas. Bon, les chapitres intéressants seront en annexe du livre. Bon. Et j'ai été obligé, à ma grande honte, à certains endroits, de faire oui au pays de l'atome. Mais, du coup, les littéraires qui n'ont jamais entendu parler de physique me disent qu'ils peuvent lire le livre. Et c'est peut-être le seul de mes bouquins qu'on peut lire quand on n'a pas fait un peu de physique. Mais en gros, c'est pour ça que j'ai regardé. Quand je suis allé chez Torre Majorana, à son domicile, il avait récupéré tous les livres qui étaient dans la chambre de Majorana, à Naples, dans sa chambre d'hôtel. Et notamment, il y en a deux que j'ai regardé comme ça. Il y en a un qui est la pièce de Pirandello qui s'appelle Feu Mathias Pascal. Vous savez, c'est l'histoire d'un type qui lit dans le journal qu'il est mort. Il y a son faire-part de mort qui est dans le journal. En fait, c'est une erreur. Mais lui, il en profite pour se barrer. Et donc, il laisse son pardessus sur le parapet d'un pont au-dessus d'une rivière. Il fait croire qu'il s'est jeté à l'eau, puis en fait, il va ailleurs. Bon. Le fait que Majorana ait lu ça... Bon, Pirandello a eu le prix Nobel de littérature en 1936. Et Majorana, il a lu tout Pirandello. C'est toujours des histoires où un personnage ne trouve pas de rôle pour lui, ou plutôt les rôles que la société prépare pour lui ne lui conviennent pas. Ça, c'est vraiment Majorana tout craché. Il y a aussi le livre de Poincaré qui s'appelle « Science et méthode », dans lequel Poincaré dit « Il y a quand même des types qui sont des fous furieux, grâce auxquels nous pouvons économiser notre pensée et gagner de l'argent ». Il dit que tous les types qui vendent de la technologie, par exemple, le font grâce à des types qui se sont sacrifiés la cervelle dans le passé pour faire avancer les idées et faire des découvertes. Le fait que Majorana... Poincaré les appelle des fous désintéressés. Bon, Majorana a dû se reconnaître dans ce portrait. Et ensuite, il y a ce bouquin de Dirac, un bouquin de 1930 qui s'appelle The Principle of Quantum Mechanics, dans lequel Dirac propose une théorie de l'antimatière que justement Majorana va contester. Et son travail le plus discuté aujourd'hui, c'est qu'il a écrit une autre équation pour rendre la mécanique quantique et la relativité restreinte compatibles, qu'on appelle l'équation de Majorana, qui a des solutions en plus des solutions de Dirac. Et par exemple, il prédit qu'il pourrait y avoir des particules neutres qui soient leurs propres antiparticules. Et nous, aujourd'hui, on les cherche au CERN. Parce qu'on pense que ce sont de bonnes candidates pour la matière noire. Donc ce gars-là, il a quand même... voilà, il a critiqué Dirac. D'ailleurs, son article est incroyable. Son article commence... parce que c'est un peu compliqué tout ça, mais Dirac, il invente la notion de mer de Dirac. Pour lui, le vide, il est rempli de particules. Il s'appelle ça la mer de Dirac. Et la première phrase de l'article de Majorana... c'est « Je refuse la mère de Dirac. Je refuse cette idée. » C'est la même phrase que « La mère m'a refusé dans son télégramme. » C'est quand même marrant. Un lacanien, qu'est-ce qu'il dirait de ça? Bon. Et donc, il a imaginé que les particules neutres étaient leurs propres antiparticules. Et c'est une théorie qu'on peut appliquer à lui-même. C'est-à-dire qu'il était tellement mécontent de ce qu'il faisait et tellement... critique à l'égard du travail des autres, qu'on l'appelait le grand inquisiteur. Puisque Fermi avait reproduit dans son groupe la hiérarchie catholique. Donc Fermi, c'était le pape, Majorana, c'était le grand inquisiteur, il y avait d'autres grades dans le groupe. Et Majorana, il contenait sa propre négativité, quoi. Il se détestait lui-même, donc il était sa propre antiparticule, si on peut dire. Donc on peut jouer avec ça d'une façon assez intéressante. Maintenant, moi j'avais fait un texte assez compliqué en expliquant comment il a fabriqué toutes ces idées, parce qu'on a les manuscrits, mais ça a été censuré par la dictature du simple dans laquelle nous vivons. Je vais le publier dans une revue spécialisée, mais parce que quand on explique la physique, le but c'est pas que les gens comprennent. Bon, c'est pas qu'on comprenne tout, c'est qu'on entende des choses. Il faut entendre une sorte de musique. Il s'agit pas de faire le prof. Il s'agit de donner à entendre des phrases. Après tout, Mallarmé, c'est pas hyper clair non plus. Hein. Mais on entend une musicalité. Et il faut entendre la physique parfois comme une sorte de musique qui n'a pas vocation à être comprise, mais à être entendue simplement.
On va finir, je suis désolée, sur ces mots, et puis on vous laissera découvrir Majorana dans le livre. Pour terminer, comme ce que j'aime bien faire sur ces conférences, j'ai juste vous lire sur justement l'anagramme de la disparition de Majorana. Le 26 mars 1938, à l'âge de 31 ans, Ettore Majorana, physicien de génie et collaborateur d'Enrico Fermi, disparaissait entre Naples et Palerme dans des conditions mystérieuses. Son corps n'a jamais été retrouvé. La physique théorique était pour lui ce que la musique fut pour Mozart, ou ce que la respiration est pour tout un chacun, une fonction naturelle. Ce jeune homme calculé comme le rossignol chante, et ses travaux prophétiques continuent d'inspirer les physiciens. Mais il lui manquait une sorte de pragmatisme ordinaire, sans lequel la vie quotidienne peut facilement tourner au désastre. Que cette sorte d'alceste de l'ère atomique naissante ait voulu se tirer du commerce des hommes est une hypothèse envisageable. Mais pour fuir dans quel désert ? On pourrait imaginer que, à l'issue d'un calcul d'une audace et d'une complexité effroyables, Majorana ait trouvé le moyen de rejoindre un univers parallèle. Et l'anagramme de la disparition de Majorana est « j'adorerais la dimension à part oui. ». On va terminer là-dessus.
C'est la clé.
Donc je vous rappelle les livres que d'Étienne Klein, « Discours sur l'origine de l'univers en cherchant Majorana » et avec Jacques Périssalco, « Anagramme renversante chez Flammarion ». Je remercie la librairie Mola de nous avoir accueillis ce soir. Je rappelle que vous êtes, Étienne Klein, ici sur Bordeaux, dans le cadre de Lire en poche, dont une conférence a lieu demain matin à 10h30 à l'Université Bordeaux 1. Et comme j'ai oublié de me présenter en début, je veux juste préciser que je suis moi-même chargée de communication scientifique à l'Université de Bordeaux. Et comme ça, on bouclera la boucle. Merci à tous.